Bienvenue dans le premier numéro des coulisses de, une émission qui vous fait découvrir l'envers du décor des grands événements de l'ENS.
Aujourd'hui, retour sur la Fête de la Science, grand événement qui a lieu dans toute la France chaque année et qui s'est plus particulièrement tenu à l'ENS au site Monod. Nous avons pu suivre la manifestation qui a accueilli d'une part un public scolaire du jeudi au samedi et d'autre part le grand public le samedi après-midi.
Nous plongeons en immersion dans les coulisses de cet événement et vous invitons, chers auditeurs, à jouer avec nous.
C'est plus drôle que l'école.
Donc c'est chouette de passer le samedi après-midi
ouais.
À faire des expériences.
Ouais. D'accord.
Alors de nombreuses activités étaient présentes à cette fête de la science. L'atrium de l'amphithéâtre Mérieux était rempli d'activités diverses, d'animateurs motivés et surtout d'un public passionné. Entre expériences de physique, de chimie, de biologie, mais aussi des ateliers un peu plus littéraires, tous les visiteurs ont pu s'amuser toute l'après-midi pour échapper un petit peu au temps humide que la ville de Lyon nous a réservé pour ce week-end. Alors le stand qui a eu évidemment le plus de succès est celui vers lequel tout le public se dirigeait instantanément dès son arrivée, malgré les consignes des organisateurs qui leur disaient de s'éparpiller, eh bien non, c'était évidemment les stands de physique. De nombreuses expériences ont été présentées, de l'optique à l'électrostatique, en passant par les tensions de surface et les fluides granulaires, le public a pu découvrir des expériences toujours amusantes.
En fait, lorsqu'on fait passer du courant électrique dans une bobine de cuivre, le cuivre n'est pas aimanté, mais c'est un très bon conducteur électrique. Et quand on fait passer un courant électrique dans cette bobine, on remarque qu'à son tour, l'aiguille est déviée. De sorte que finalement, la bobine crée un champ magnétique.
Donc on a un ruban en caoutchouc qui frotte contre un rouleau en plastique. Et par frottement, on produit de l'électricité statique. Donc d'accord. Le ruban arrache des charges au rouleau en plastique. C'est la même chose que quand on enlève un pull et qu'on se prend une décharge, c'est de l'électricité statique.
Donc il y a tout un tas de comportements intermédiaires entre donc, le fluide visqueux qui s'adapte à la forme du récipient dans lequel il est et le solide élastique qui garde une forme propre.
Alors quand on tourne la machine de Van der Graaff, on remarque en fait que la bille d'aluminium oscille, se met à osciller entre les deux plaques, va taper sur les deux plaques. Qui fait un bruit un peu de carillon, un nom de carillon électrostatique de la manip.
Donc ça c'est un effet tension de surface, on voit bien que quand on met du liquide vaisselle, on abaisse la tension de surface, les molécules d'eau s'écartent et emmènent le poivre avec. Oui.
Après il vient interagir avec le courant qu'il a créé, de façon à s'opposer à sa propre vitesse, et donc il est ralenti.
Mais l'ENS ce n'est pas que des sciences dures, et était aussi présent à la fête de la science des historiens, des géographes et des linguistes. Leur but était de nous faire jeter un autre regard sur le monde scientifique et les sciences.
Oui, parce que finalement, il faut faire sortir un peu le public de ses cases.
Et à propos de cases, justement, le premier atelier portait sur la bande dessinée, Nicolas. Alors je suis avec Aymeric à la fête de la science, qui va nous parler de son atelier.
Oui, donc c'est un atelier dont le principe vise à mettre en parallèle la science et la bande dessinée. Et de montrer en quoi la bande dessinée peut nous donner une autre manière de voir la science et peut nous donner finalement des clés pour aborder la science de manière différente, pas forcément moins ludique, mais avec des pistes qui sont pas forcément des pistes de science dure, mais des pistes qui, sur le plan des études littéraires, peuvent nous amener à considérer la science d'une autre manière.
D'accord. Alors derrière toi, il y a une planche de Calvin et Hobbes.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux me la décrire et m'expliquer en quoi elle te sert ?
Alors oui, cette planche de Calvin et Hobbes montre Calvin qui est prêt à éternuer, qui éternue et qui, du fait d'un éternuement trop fort, se retrouve sorti de l'attraction terrestre et il éternue à nouveau pour revenir sur Terre. Donc en fait, son éternuement le sort de l'attraction terrestre. Ce qui est intéressant, Calvin et Hobbes, là c'était juste un exemple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que La science est souvent un prétexte dans la bande dessinée au gag. Et en fait, la science, alors qu'elle apparaît souvent comme quelque chose d'extrêmement sérieux, on a l'image du laborantin avec sa blouse, ses petites lunettes et son air un peu malingre et maladif, et bien, dans la bande dessinée, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une science qui est une science drôle, une science qui vise à faire rire le lecteur, parce que c'est souvent une science soit extraordinaire, soit ratée, soit qui est, dont les effets sont, dépassent l'effet attendu. Tout ce qui est la fascination qu'on peut avoir pour l'invention, pour la question de l'inventeur et de la curiosité scientifique, ça clairement la BD pousse un peu dans ce sens-là, alors, autant que d'autres que des expériences qu'on peut voir aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est de voir par exemple chez Gaston cette effervescence de la création. Il est toujours en train de créer des ventilateurs nouveaux, des engrais nouveaux, tout ça, ça dégénère tout le temps. Mais néanmoins, il y a vraiment cette dynamique de la création perpétuelle chez Gaston qui donne envie de soi-même créer un petit peu, de voir si on ne peut pas faire un petit atelier de chimiste. C'est le truc qu'on aime quand on est gosse, quoi, les ateliers de chimiste. Donc on essaye de faire en plus autre chose que la science. On est un peu des pirates, mais on peut pas le dire.
Alors maintenant, on va sortir des cadres de la bande dessinée pour nous intéresser plutôt à la traduction. Et la fête de la science, eh bien, c'est un univers plutôt magique, puisqu'on va s'intéresser à la traduction du fameux livre Harry Potter.
Donc l'objectif de notre atelier, c'est de montrer les techniques scientifiques contemporaines qui permettent de traduire et de montrer également les limites de ces logiciels pour l'instant. Et donc les enfants, j'ai un fichier sur chacun de ces ordinateurs, ils pourront copier-coller des phrases. Ensuite, j'ai lancé deux programmes, un Reverso et puis l'autre Google Translate. Les enfants vont coller leurs phrases dans ces deux logiciels différents et puis voir ce que le logiciel produit. Ensuite, nous comparerons avec la traduction faite par un être humain qui est dans l'édition française du roman.
D'accord. Le but est donc tout autant littéraire que scientifique ici.
Le but étant, oui, de voir à quel point l'interface littérature et science, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait au point.
D'accord. Et Harry Potter est assez ludique comme sujet, je pense. Ça va sûrement les...
J'ose espérer qu'un certain nombre d'enfants, s'ils ne les ont pas lus, connaîtront au moins l'histoire et connaîtront surtout, je travaille beaucoup sur les noms qui sont traduits. Harry Potter est un roman intéressant parce que le traducteur est obligé de traduire certains noms propres. Sans ça, le message ne passerait pas. Donc si les enfants connaissent déjà les noms de certains personnages... comme Severus Snape par exemple, qui s'appelle Rogue en français, etc., ça nous permettra de travailler sur pourquoi un traducteur automatique trouve ses limites sur des questions de nos propres.
Oui, j'ai sous les yeux différentes listes de vocabulaire telles que Allée des Embrumes, Beau Battant, Le Chaudron Baveur, donc il parle beaucoup à un lecteur de Harry Potter. Et donc le but, c'est de montrer aux ces enfants qu'il résulte d'un choix de traduction et non pas d'une machine.
Exactement, exactement. Et que la machine, et c'est ça le but d'avoir les deux logiciels différents, c'est-à-dire Reverso et Google Translate, c'est de voir que la machine peut apprendre. Et il y a des algorithmes qui permettent aux traducteurs automatiques de s'améliorer, mais en fonction de l'input de l'être humain.
Et c'est avec ce bruit que tous les auditeurs ont évidemment reconnu, qui est celui d'un appareil à remuer la maïzena, que nous repassons aux expériences scientifiques.
Mais la fête de la science permettait aussi de s'initier à la biologie et de manipuler différents instruments scientifiques. On pouvait ainsi observer dans un microscope des bactéries ou même des drosophiles. On pouvait même séquencer son propre ADN.
D'ailleurs, Camille n'a pas pu résister et a testé pour vous le stand de séquençage d'ADN.
On écoute.
En tant que journaliste de terrain, je viens de cracher dans une pipette pour qu'on séquence mon ADN. Donc c'est parti.
Alors, on a trois ateliers. Premier atelier, c'est extraction de l'ADN. Donc les participants peuvent extraire leur propre ADN. Le deuxième atelier, c'est faire une migration d'ADN sur gel. Donc, c'est une technique qui est utilisée en routine dans les laboratoires qui permet d'analyser les gels. Ensuite, on présente aussi sur ordinateur la molécule d'ADN, donc la structure tridimensionnelle de l'ADN. Et après, il y a un dernier exercice qui est on s'amuse à faire les experts et on fait une petite initiation à l'analyse génétique pour la détection des meurtriers, enfin, comment on pourrait dire ça, mais voilà.
Donc je suis entourée d'enfants qui sont en train d'extraire leur ADN, donc ils crachent dans un petit récipient, c'est ça ?
Exactement.
C'est ludique comme atelier, c'est un peu sale, c'est...
Non mais c'est très marrant, et puis la science, il faut se mouiller, il faut... voilà.
Alors maintenant, on va parler de mouches avec Léa, en master 1 de biologie, qui mène un atelier qui parle des drosophiles. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, Léa ?
Oui, bonjour. Donc, l'atelier que je présente vise à expliquer en quoi le modèle de la drosophile peut être utile pour étudier les maladies neurodégénératives chez l'homme. Puisqu'en effet, l'œil de la mouche est composé de plein de petits neurones qui ressemblent à l'œil de l'homme. Et donc, on peut étudier... indirectement les maladies qui arrivent à l'homme en étudiant la mouche.
Ce que tu as fait dans le cadre du labo junior, je crois ?
Oui, c'est ça. Donc j'ai participé à un laboratoire junior l'an dernier et nos travaux ont porté sur la drosophile. Donc c'est aussi pour montrer au public ce qu'on peut faire avec une mouche.
Oui, je vois qu'il y a un microscope sur la table devant nous. Alors si je regarde dedans, je vois quoi ?
Alors à l'intérieur, il y a des mouches qui sont immobilisées dans une substance gélatineuse pour pas qu'elles bougent. Et on peut regarder leurs yeux. Donc on a apporté des mouches qui ont des yeux normaux, bien gros, bien organisés. Et on peut les comparer avec des mouches qui ont des yeux malades, donc tout petits et abîmés.
Alors, Chloé Journeau, je suis maître de conférence à l'ENS en biologie. Donc ici, on a proposé un atelier autour de la microscopie. On a en fait observé différents objets biologiques au microscope avec les enfants. À l'échelle de la cellule, donc des cellules végétales, des cellules d'humains, donc prélevées sur nous-mêmes, des champignons, et puis après on a été voir un peu des petits organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu. On a été regarder des paramécies dans des infusions de foin. On a été observer aussi des crachats de lune au microscope pour observer les bactéries. Donc tout ça pour voir que le vivant est très diversifié, mais aussi organisé de façon assez unitaire autour de la cellule. Voilà.
Bah, que les mouches, c'est beaucoup plus pratique à étudier que les souris. C'est aussi. Ça a beaucoup plus de gènes en commun. Ça a beaucoup de gènes. Et ça se reproduit très vite.
T'as appris plein de choses alors ?
Oui.
Est-ce que t'aimes bien la science à l'école ?
Oui.
Est-ce que t'as envie d'être un chercheur plus tard ou un scientifique ?
Oui.